Alors, nous sommes en direct avec Guillaume Lavoie d'Ensemble Montréal. Je vous écoute depuis le début et je vous suis. Pourquoi ne pas vous avoir brigué pour être maire de Montréal, Guillaume Lavoie?
Ben, c'est vrai que ça m'avait déjà traversé l'esprit. J'avais essayé, moi, d'être chef de projet Montréal dans une autre vie, plusieurs années quand même. Alors, quand on a cette idée-là, c'est parce qu'on veut conquérir la chaise la plus importante. Mais moi, j'ai quitté la politique, ou la politique m'a quitté, en 2017.
Ouais.
Et je suis allé faire véritablement autre chose. Là. J'étais pas dans l'antichambre, c'était pas dans mon plan.
Suite à des élections perdues?
Non, en fait, il y a eu la chefferie fin 2016.
C'est ça.
Et... c'était un peu évident que il n'y avait pas vraiment de place pour moi, mais je suis resté membre du caucus, je suis resté fidèle au caucus jusqu'à la dernière journée, et il aurait peut-être été possible, là, mais je ne voulais pas traverser la chambre, je n'étais pas fait comme ça. Alors j'ai dit, ben, je ne me représente pas. Puis c'était doux amer, j'ai adoré chaque minute que j'ai été là, avant la chefferie, après, et j'ai été très chanceux, j'avais des citoyens extraordinaires. Alors, mais je suis allé faire autre chose, on peut faire autre chose. C'était 3-4 années extraordinairement fascinantes et occupées, beaucoup de voyages, donner des conférences, des cours un peu partout dans le monde pendant ce temps-là. Et ben, à un moment donné, le désir de servir, je dis à la blague, pourquoi je reviens? Ben, c'est parce que la gloire et l'argent me manquaient. Imaginez bien que c'est pas ça. Le désir de servir, un désaccord sur la manière dont ça se passe maintenant. Et là, il faut se dire quelle est la meilleure manière de servir.
Ouais, un désaccord, parce qu'il faut rappeler au public qui sont pas forcément informés là-dessus, mais vous étiez pour Projet Montréal.
Oui, alors moi, j'ai été membre de Projet Montréal de 2013 à 2017. Alors, en 2017, quand j'ai quitté la politique, j'ai aussi quitté le parti. Peu d'animosité, il y en a quelques-uns qu'on n'aime pas, mais essentiellement des gens fantastiques qui y sont, des amitiés profondes, un peu une tristesse de quitter, et de laisser la chance aux coureurs de voir qu'est-ce que le parti est devenu. Moi, je pense que le parti a profondément changé. J'ai de la difficulté à le reconnaître aujourd'hui. Il est devenu autre chose, qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui est plus loin de ce que moi je suis.
Des accords étaient où alors?
Maintenant, parce que moi, j'ai été solidaire de toutes les positions là, de 2013 à 2017. D'abord, sur l'attitude. Il y a un enjeu de ce que j'appelle, moi, j'ai l'humilité. Je pense qu'il faut avoir dans la vie l'humilité de ses convictions. Alors, j'ai une bonne idée de ce que je veux faire avec la ville. Je pense que ce sont les bonnes idées. Mais ça se peut que je me trompe. Et le positionnement mental de « ça se peut que je me trompe », ça veut dire « je sais peut-être pas tout ». C'est une idée qui peut être peut-être rendue meilleure. À partir du moment où je suis un produit là, de l'illumination profonde, ben là, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui sont pas parfaitement d'accord. Cette idée de classer les citoyens en deux groupes, ceux qui sont légitimes, c'est ceux qui sont déjà d'accord avec moi, qui sont éclairés, et les autres qui sont illégitimes, que ce serait mieux s'ils étaient même pas dans la ville. Moi, ça me dérange profondément. Alors, sur ces enjeux-là, sur la gestion financière, puis après ça, il y a des enjeux plus techniques, mais philosophiquement, moi, je pense que la rhétorique, c'est pas assez. Dans les bons sentiments, c'est pas assez. Ça prend un réel plan.
Je reviens à ma première question. Pourquoi pas la mairie?
Ah, alors, maintenant, quelle est la meilleure manière dont on peut servir? Si le but, c'est de changer l'administration, c'est-à-dire, je pense qu'il faut changer l'administration en place, alors là, on fait l'analyse de c'est quoi la meilleure manière d'arriver là. Et il n'y a pas d'exercice de glorification personnelle. J'ai déjà été dans les médias, j'ai pas besoin d'être au-devant pour le plaisir d'être au-devant. Et dans l'analyse, je pense que de faire équipe avec Denis Coderre, avec qui on a eu des désaccords là, épiques, là, c'était costaud au conseil. D'ailleurs, le secret le mieux gardé en ville, c'est que... D'ailleurs, je renie absolument rien de mes positions dans nos débats, je suis sûr que lui fait pareil. C'est que quand les lumières se ferment, on avait toujours au plan personnel une excellente relation. On peut avoir des désaccords profonds, marqués, sans être obligé de haïr l'autre. Ça se marche pas comme ça, là. Et souvent, les moments où j'étais le plus fâché, parce que des fois, on sort puis on est un peu encore crinqué, pour me calmer, soit avec les collègues au caucus ou avec d'autres, je disais, quand l'adversaire rentre chez lui le soir, il y a quelqu'un qui l'appelle papa, il y a quelqu'un qui l'appelle maman, puis de s'obliger à se dire ça, ça humanise l'espèce d'adversaire qu'on veut démoniser. Alors,
est-ce que c'est lui qui est venu vous chercher?
Je pense que c'est un peu les deux. On s'est rencontrés peut-être, je vous dirais, parce que c'est pas fait du jour au lendemain. Là. On s'est à peu près pas vu juste parce que moi, j'étais très occupé, lui aussi, pendant 2-3 ans. Et là, on s'est mis à se rencontrer. Il y a eu peut-être 5-6 rencontres, au total peut-être une trentaine d'heures. Là.
Quand
et
même.
Là, des discussions sur l'état de la ville. Qu'est-ce qu'on pense qu'il faut faire? Comment est-ce que serait quoi la meilleure manière d'arriver à ça? Puis on parle d'habitation, de mobilité, de sécurité, d'inclusion, de lutte aux inégalités. En 20-30 heures, vous avez le temps de passer à travers tout ça. Puis à la fin, ben, la situation est un peu, elle a un peu émergé d'elle-même. Bon, ben, je pense qu'on peut travailler ensemble sur la base de cette collaboration-là. Et il y a deux choses où, c'est pas juste moi qui signe en bas de la feuille, là, Denis Coderre, il y a deux choses majeures qu'il a acceptées. Et c'était pas du quiproquo, là. D'abord, je me présente à une mairie d'arrondissement. Une des grandes différences philosophiques qu'il y avait entre Denis Coderre et moi, c'est que lui a des inclinaisons plus centralisatrices. Moi, j'ai des inclinaisons plus décentralisatrices. Mm-hmm. Moi, je crois profondément à la structure et à l'importance des arrondissements. Le fait que je me présente maire d'arrondissement envoie un message assez fort que les arrondissements ne vont pas devenir, dans une administration de Denis Coderre en 2021, une espèce de bureau des permis. Là. Mm-hmm. Ce sera de véritables mm-hmm. lieux de gouvernance. Mm-hmm. L'autre chose, c'est moi qui ai été, et la chose est publique, là, ça a été annoncé comme ça, c'est moi qui ai le co-président du processus de création de la plateforme électorale. Et je vous dirais que je manque pas d'heures dans mes journées là-dessus. Là.
Alors, en train d'écrire la plateforme électorale en ce moment, c'était une condition, c'est-à-dire...
C'est pas une condition, ça marche pas comme ça, là. C'est-à-dire, voici ce que je veux, si c'est pas ça, je m'en vais, là. C'est en discutant, moi je pense que c'est comme ça que je peux le mieux servir. Je pense aussi que ça envoie un signal très fort à l'équipe, à l'électorat. On refait pas les campagnes, on fera pas la campagne de 2013, on fera pas la campagne de 2017, les enjeux sont différents et il faut que ça s'incarne qu'on fera pas la même chose. Alors ça va se voir beaucoup dans la plateforme.
Alors vous avez été désintéressé par la politique, vous avez pris du temps, vous avez pris... Qu'est-ce que vous voulez changer en ce moment à la Ville de Montréal?
Ben, il y a énormément de choses, là, mais sans me scooper moi-même, parce que la plateforme, elle avance très, très bien, mais elle n'est pas encore terminée. Je vous dirais d'abord, il y a une attitude générale qui doit changer, c'est de considérer que toute opposition est illégitime. Ça, c'est terminé. Tout le monde est... La preuve, c'est que quand l'administration Plante ramasse les taxes, soudainement, là, pour qui ils ont voté, ça n'a pas d'importance. Moi, je crois profondément qu'il faut cesser de définir les gens rhétoriquement ou politiquement, sur la base de pour qui ils ont voté à la dernière élection ou sur la base de comment ils se déplacent. Quand on se déplace en vélo, on n'est pas un cycliste. Quand on se déplace en... On se définit pas par le mode de transport. Quand je passe la balayeuse, je ne suis pas un aspiriste. Alors, on est des citoyens, puis on va partir de cette base-là. L'importance... du fait français à Montréal.
Voilà, le français,
ça,
qu'est-ce
moi,
que vous allez faire?
Pour moi, il n'y a pas... D'abord, il y a des choses qu'il faut être capable de dire puis d'assumer. Moi, mon bras droit va tomber avant que je signe un règlement, une loi, une procédure qui ferait du français une langue comme les autres. C'est pas comme ça que j'envisage ça. Pour moi, l'idée du Québec est indissociable que la principale ville qui l'anime est le français comme langue commune. Alors ça l'incarne. Puis moi, je me présente comme maire de Villeray-Saint-Michel, parc extension. Le véritable défi du français langue commune, le véritable défi du Québec terre d'accueil, c'est pas tant à Chicoutimi qu'on va le vivre, là. C'est beaucoup à Saint-Michel-Parquet.
Qu'est-ce que vous allez faire avec le bilinguisme qu'on offre automatiquement quand on s'adresse à la Ville de Montréal?
Là-dessus, je pense que la signature qu'on donne là, est très importante. Moi, je trace une ligne, par exemple, où là, peut-être que certains, je dirais, plus forts sur la langue française ne seront pas d'accord. Tout ce qui relève de la sécurité ou de la santé publique, je vous dirais que là, mon intérêt premier, c'est comment est-ce qu'on s'assure de la sécurité, de la santé publique. Je vous donne l'exemple de Parc Extension, où le taux de vaccination est beaucoup plus faible. J'ai des citoyens, des gens, des êtres humains dans Parc Extension qui ne maîtrisent ni l'anglais ni le français. Mon objectif premier, c'est comment je rejoins ces gens-là afin de garantir la santé publique ou la sécurité. Quand quelqu'un est en détresse sécuritaire ou au niveau de la santé, je vais vous le dire dans un vieux français, je me contre-saint-cyboirise de leur langue. Je veux être capable de leur parler. Pour ce qui est de la facture de la Ville de Montréal, nous devons, par nos gestes, par notre exemple, par la manière dont on laisse aucune place au doute que nous sommes une ville francophone. Moi, j'ai habité à Barcelone. J'ai travaillé pour le gouvernement catalan. Je sais ce que c'est une ville qui vit avec des populations importantes qui maîtrisent des langues différentes. Alors, la manière dont on engage une conversation, la manière dont on engage les communications, c'est un exemple que l'on doit donner. Et ça m'est déjà arrivé, moi, de me faire prendre au jeu, de faire un discours, par exemple. Je me souviens, j'étais élu dans Rosemont et j'avais des gens très, très âgés chez les Ukrainiens qui parlaient à peine français. Et dans mon discours, j'ai pas mal plus parlé anglais que français. Puis c'était, à réflexion, une erreur. J'aurais dû, pas pour les gens qui étaient là, mais comprendre que mon rôle était de parler davantage, de faire le marquer le point.
Exemplarité.
De marquer exactement. L'exemplarité. Oui. L'exemplarité. Et il faut que ça nous habite tout le temps. Même si des fois, on l'oublie individuellement, il faut que collectivement, ce soit toujours extraordinairement
présent.
Le
temps nous fait la guerre, malheureusement, Guillaume Lavoie, mais il y a beaucoup de violence au niveau des policiers en ce moment. Vous avez vu, ça se répète et on dirait qu'il n'y a rien qui change. Est-ce que dans votre plateforme que vous êtes en train d'écrire, il y a quelque chose qu'on pourrait faire autrement?
Énormément. D'abord, il y a un challenge qui est nouveau. Là. C'est pas seulement là, il y a du côté de la police, mais il y a aussi des menaces sécuritaires beaucoup plus grandes. Le nombre d'armes à feu à Montréal augmente de manière importante. L'enjeu du fentanyl est une crise majeure. Alors, je vous dirais que Montréal est beaucoup moins sécuritaire qu'il l'était. Et la réponse à ça, c'est pas de définancer, c'est pas de désarmer les policiers, c'est de mieux financer, mieux former, c'est d'accompagner. Et là-dessus, la sécurité publique, il faut arrêter d'en faire un débat. Est-ce que c'est la police ou la police? C'est la police et les programmes de prévention, d'accompagnement. C'est tout ça. Mais moi, j'ai pas de problème à m'assurer d'avoir plus de policiers sur les rues et plus de prévention en même temps. Je vois pas de contradiction entre les deux.
Santé mentale, vous allez vous en occuper?
C'est très, très, très difficile parce que, et on le voit en itinérance, hein, d'ailleurs, ceux qui disent que l'itinérance, il y a une solution, comprennent pas bien le problème. Il y a, ça, par exemple, on dit qu'à chaque itinérant, un parcours, il y a des gens qui ont des difficultés financières, il y a des gens qui ont des difficultés d'adaptation mentale. Alors, il faut accompagner les gens un parcours à la fois.
Merci beaucoup, Guillaume Lavoie.
Au plaisir.